Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ça commence par faire du bien, soit par soulager une angoisse, par libérer une tension qui cède comme par miracle, disparaît pour faire place au calme, au bien-être relatif. Soit par procurer un plaisir supplémentaire, une euphorie passagère, une excitation joyeuse, une sensation nouvelle et intéressante, si ce n'est agréable. Ce sont les effets bien connus de l'alcool, de la drogue, du sucre et de certaines pratiques sportives et de la cigarette. On sait moins qu'acheter, dépenser de l'argent sans que cela corresponde à un besoin, procure parfois un soulagement ou un plaisir comparable, comme une consolation, une récompense avec un frisson et une décharge d'adrénaline enivrante. On appelle ça la shopping thérapie, recommandée en cas de chagrin d'amour, de blessures narcissiques, de tristesse ou d'ennui. Une étude réalisée par l'Université du Michigan tendrait même à prouver scientifiquement que l'action d'acheter procure la sensation gratifiante d'exercer un plus grand contrôle sur sa vie. Les professeurs américains auraient réalisé plusieurs expériences pour illustrer la différence entre un individu faisant vraiment du shopping et celui qui se contente d'un lèche-vitrine passif. Selon l'étude, acheter serait 40 fois plus efficace pour neutraliser le sentiment de tristesse. Le shopping rend donc heureux, conclut l'article, en tout cas plus heureux que la frustration. Il est vrai que cette étude, publiée dans une revue plutôt sérieuse, est citée par le Figaro Madame et noyée au milieu de pages de publicité pour de luxueux articles de mode, et que mon enquête n'est pas allée jusqu'à retrouver qui finance la dite revue américaine. Ce qui est apparu clairement depuis une dizaine d'années en revanche, c'est qu'à l'instar de la drogue, l'alcool et la cigarette, l'achat, la dépense pouvait s'avérer tout aussi addictif. On peut être un acheteur ou un débiteur compulsif comme on est un alcoolique ou un dépendant du cannabis. C'est ainsi que sur le modèle des alcooliques anonymes ont été mises en place des réunions de débiteurs anonymes. Stéphanie Thomas les a rencontrés, tout de suite trois d'entre eux dans Les Pieds sur Terre racontent.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Eh bien, mon histoire, c'est l'histoire d'une femme qui s'est découverte dépensière compulsive, un peu sur le tard, dans la cinquantaine, et qui s'est rendu compte qu'elle aurait pu vraiment finir très 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 mal en se détruisant par la dépense compulsive. Chez moi, l'argent était une source de conflit. Mon père gérait l'argent, d'abord il était comptable, il le donnait au compte-goutte à ma mère, qui devait justifier de toutes ses dépenses. Et c'était vraiment l'horreur à la maison par rapport au problème d'argent. Ma maman ne travaillait pas et puis il n'était pas question qu'elle travaille. Et mon père justement avait ce rapport très rigoureux à l'argent. Il parlait de budget, il parlait de rigueur. Il y avait un côté rigide. Autant de choses qui faisaient que ça me faisait prendre l'argent en dégoût, enfin la gestion de l'argent en dégoût. Et enfant, je me jurais que quand je serais grande, je ne m'occuperais jamais de ça. Ça, c'était l'argent. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. L'argent, pour moi, ce n'était qu'un moyen de me faire plaisir, un moyen facile de me faire plaisir. Comme je venais aussi d'une famille pauvre, j'avais une revanche à prendre. L'objet, pour moi, était la façon de compenser et de me réhabiliter presque, enfin, voilà, d'exister. Je dépense, donc j'existe. Dès que j'ai commencé à toucher de l'argent, j'ai pété un câble. J'étais un peu comme la personne qui découvre l'alcool et qui se shoote. L'argent, pour moi, c'était un shoot. Comme j'étais fatiguée parce que je travaillais beaucoup, la moindre des choses, c'était que je me récompense. Donc, pour me récompenser, je rentrais dans les boutiques et je m'achetais des fringues. Si les affaires s'étaient bien passées, que j'étais heureuse, vive, ben, il fallait aussi que je me récompense. Et puis, il y avait l'argent, donc je dépensais. Si je tombais amoureuse, il fallait absolument que je change toute ma garde-robe parce que comme ça, c'était sûr, le mec que j'avais rencontré, j'allais le garder, il serait fou de moi. Tout le temps, il pleuvait, il fallait que je m'achète un imperméable, il faisait beau, il fallait que je m'achète une robe d'été. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'objet, pour moi, était devenu la solution à tout mon mal-être. Très, très souvent, c'était des vêtements, alors beaucoup, beaucoup, beaucoup les fringues. Je rentrais dans une boutique, il y avait cette espèce d'atmosphère ouatinée. Enfin, les vendeuses, en plus, c'est leur travail, repèrent ce genre de victimes. Elles les repèrent très, très facilement. Donc, oh, mais ça vous va tellement bien. Et puis, je vais pouvoir vous faire un petit prix. Puis, vous savez, il ne reste plus que cette taille. Et puis. Donc, mais j'avais l'impression vraiment que j'étais comme une alcoolique. Hein. J'essayais, je payais. C'était euphorique. Et à peine sortie de la boutique, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Sentiment de culpabilité, d'échec, de mésestime de moi. Alors que je savais que j'avais des tas de choses à payer qui étaient beaucoup plus prioritaires, beaucoup plus urgentes, et que j'avais pas l'argent pour le faire, et que l'argent était passé à remplir mes armoires de fringues que quelquefois je ne portais même pas. Je me suis vue aussi courir les soldes, et un jour, dans une boutique de chaussures, il y avait une paire de bottes, mais sublissimes, sublissimes, qui coûtaient une fortune, là, elles étaient à 50%, je les essaye, elles me serraient un petit peu, c'était une demi-pointure en dessous. La vendeuse me dit, oui, mais elles vous serrent un peu, mais à ce prix-là, vous n'aurez jamais. Ben, j'ai acheté les bottes, je ne les ai jamais mises. Voilà. Ce que j'aurais dû voir, mais que je n'ai pas vu, c'est que à chaque fois que j'avais fait ces dépenses, je n'étais pas mieux qu'avant de les avoir faites. Donc il y avait quand même un problème. Et j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait un problème à partir du moment où j'ai commencé à fonctionner avec les découverts, avec les crédits à la consommation, et que je sentais que je commençais vraiment à me mettre dans une situation très 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 embarrassante, du style ne pas pouvoir payer mon loyer, ne pas pouvoir payer mon téléphone, ne pas pouvoir rembourser des choses, enfin payer des choses essentielles, quoi. Je dilapidais l'argent et je ne privilégiais pas mes besoins essentiels. Et le problème, c'est que je dysfonctionnais aussi bien avec mon argent personnel qu'avec l'argent de la société. Donc, au bout d'un moment, tant que ça s'est bien passé, que les affaires étaient faciles, le banquier prêtait, le banquier autorisait des découverts. J'avais en plus le chic et la conviction pour leur dire « mais ne vous inquiétez pas, dans 2 mois, tout va être régularisé ». Enfin, et comme ça marchait bien, il me faisait confiance. Et quand les affaires ont commencé un petit peu à se durcir, là, ça a été la débandade totale. Mon banquier, peu à peu, s'est rendu compte de l'étendue des dégâts et s'est rendu compte que j'avais quand même un problème dysfonctionnel avec l'argent, tant sur mon compte professionnel que sur mon compte personnel. Et un beau jour, il m'a convoqué et il m'a dit qu'il me coupait les vivres. Là, je me suis dit, ma fille, tu es vraiment perdue. Et je me suis rendu compte que si je continuais, j'allais finir dans la rue, j'allais finir sans rien, malgré mon apparence de richesse, puisque je n'oubliais pas d'être habillée avec toujours les dernières collections. À chaque saison, je n'avais que des marques sur le dos. Enfin, j'étais une vraie fashion victime. Et donc, je me suis rendu compte que j'allais vraiment la tête dans le mur. Et j'ai pris peur. C'est vraiment pas par vertu, mais par peur. Qu'ayant vu justement sur un magazine un article concernant les débiteurs anonymes, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. L'article m'avait interpellée, je me reconnaissais dans tous les dysfonctionnements qui étaient décrits. Et c'est comme ça que je suis arrivée en débiteur anonyme et ça m'a sauvé la vie. La première fois que j'ai passé la porte des débiteurs anonymes, j'ai vu tous ces gens assis dans cette salle, je les ai regardés, j'ai dit mais j'ai rien à voir avec eux, parce qu'en plus j'étais toujours avec mon apparence physique, mes fringues sur le dos, j'ai dit j'ai rien à voir avec ces gens-là, je suis repartie comme très très vite. Et puis peu de temps après, j'ai un contrôle fiscal qui m'est tombé sur le dos, et là je me suis dit ma fille, t'as pas le choix, il faut que tu capitules et vraiment débiteur anonyme est pour toi. D'abord, quand je suis arrivée en débiteur anonyme, j'ai pu tomber le masque alors que je jouais constamment la comédie, alors que j'étais rongée par la peur, par la honte. Je n'en parlais jamais à mes amis, ni à ma famille, ni à mes enfants. Pour tout le monde, j'avais beaucoup d'argent, la vie était belle. Il n'y avait qu'à sortir l'argent pour acheter ci, acheter ça, faire un voyage, tendre de la soie sur les murs. Enfin, c'était le délire total. Et donc, en arrivant en débiteur anonyme, j'ai pu dire qui j'étais. On m'a regardée avec bienveillance. Je pensais qu'on allait me juger. Je n'ai pas été jugée. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes similaires aux miens, qu'on pouvait en parler et surtout qu'il y avait des solutions. Et ça, ça a été extraordinaire. La première solution qui était pratique en même temps que spirituelle, ça a été de se munir d'un petit carnet et de coucher ses dépenses tous les jours et de faire les totaux. D'ailleurs, je vais vous faire voir, j'ai mon petit carnet là que je tiens toujours. Voilà ce petit carnet. Tous les jours, je marque mes dépenses. Et j'ai fait une grande découverte quand j'ai commencé à utiliser ce petit carnet, c'est que je ne savais pas, dans mon délire de l'époque, je ne savais pas qu'une carte bleue et un chèque, c'était de l'argent. Pour moi, ça avait quelque chose de virtuel. Ça me donnait un pouvoir, et alors que c'était de l'argent. Donc je ne tenais pas mes comptes du tout. Et lorsque je recevais mes relevés bancaires, c'était à chaque fois des bouffées d'angoisse, des bouffées de honte par rapport au fait que j'étais complètement déconnectée de la réalité. Voilà, débiteur anonyme, ça m'a reconnectée avec la réalité. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a redonné de l'estime de moi-même, alors que je n'avais pas du tout d'estime de moi-même. Donc j'ai commencé à faire ce qu'on m'a dit, mais vraiment sans aucune résistance. Alors que je voyais bien mon père faire ses colonnes de chiffres, et là c'était l'horreur, tandis que là non, c'était très doux, c'était au contraire une façon de prendre soin de moi, puisque je savais que j'avais une maladie qui était la dépense compulsive.
Donc ça fait 20 ans que vous tenez ce carnet, Mathilde.
Ça fait 20 ans, j'ai d'ailleurs gardé tous mes petits carnets. Là, tous les jours, je marque, par exemple, là j'ai pris un pot avec une amie, j'ai mis marqué le pot, tube de dentifrice, beauté, là, ça devait être le coiffeur, boulangerie. Je fais mon total, tous les jours, je fais ça tous les jours. Et à la fin de la semaine, je reporte ça sur un plan de dépenses, colonne par colonne, enfin semaine par semaine plutôt. Et après, lorsqu'on a suffisamment de semaines de coucher sur ces feuillets, on peut demander ce qu'on appelle une réunion de décompression. C'est-à-dire qu'on choisit deux amis à qui on a confiance. Et avec eux, on bâtit un tableau de bord, un plan de dépenses, qui est en même temps un plan de vie, qui permet de savoir combien je peux dépenser pour mes fringues, combien je peux dépenser pour aller au ciné, au resto, l'argent qu'il faut mettre de côté. Mais il y a maintenant une épargne sécurité et une épargne projet. Une épargne ? Mais ce mot-là existait et je ne le savais pas. Je sais que pour moi, si j'achète à crédit, c'est comme si un alcoolique qui est abstinent et qui reprend son premier verre d'alcool. Pour moi, ce serait exactement pareil. Et j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'être zen, d'être confortable, d'être la femme que je suis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis des gens, de mes relations. J'ai plus envie de jouer de double jeu. Et je sais que pour moi, ce serait dangereux. Voilà. Pour moi, c'est une nécessité. Coucher mes dépenses sur mon petit carnet tous les jours, faire mes totaux en fin de semaine, aller en réunion de décompression, aller en réunion simplement, avoir des réunions de décompression, prendre du service aussi, parce que après, quand on a été bien aidé, c'est normal d'aider les autres, donc il faut rendre ce qu'on a reçu. À partir du moment où je n'ai plus de dettes, le vide que je remplissais avec l'argent est devenu un espace. Et cet espace, j'ai eu envie de le remplir avec des choses beaucoup plus positives. Et de ce fait, il y a des choses qui ont émergé, que j'avais enfouies, des choses que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Je n'avais pas fait d'études et du coup, je me suis autorisée à m'enrichir, mais m'enrichir intellectuellement. J'ai commencé par passer mon bac, j'avais 60 ans. J'ai passé ma licence, ma master et puis j'ai commencé une année de doctorat, mais après j'ai arrêté. Et puis après, j'ai écrit un livre qui a été publié, donc voilà, ça me remplit de bonheur. Donc c'est grâce au programme des débiteurs anonymes. Parce qu'on parle souvent dans les réunions de vision. Ta vie, c'est quoi ? Quelle vision tu as de ta vie ? Qu'est-ce que tu fais pour réaliser ta vision ? Et voilà, j'ai réalisé une belle vision et ça me remplit de bonheur.
Transculture, les pieds sur terre.
Fermé, comme ça c'est mieux.
Pff.
ce qui m'a amené au débiteur anonyme, c'est la souffrance. Quoi. Je me suis retrouvé chez moi, j'habitais dans 15 mètres carrés, j'avais 38 ans, j'étais RMiste, j'avais un trou en banque, et mon téléphone était coupé, et je pleurais. Le sentiment d'échec, de pas y arriver, c'est voir un mur devant soi, et que si on continue comme ça, la vie n'a plus de sens, puis je me serais tiré une balle dans la tête. Donc je suis aussi alcoolique, et j'avais arrêté, grâce aux Alcooliques Anonymes, 8 ans avant. Donc j'avais déjà l'expérience des Alcooliques Anonymes, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer les débiteurs anonymes, et voilà, je me suis mis dans la même disposition d'esprit, et j'y suis allé, et j'ai écouté ce qu'on m'a dit, et j'ai appliqué tout ce qu'on m'a dit de faire. Suggéré de faire. Il n'y a pas d'obligation. Dans un premier temps, c'est l'identification. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas maudit. L'identification, ça joue beaucoup dans le sentiment d'appartenance. Donc ça lâche quelque chose. C'est pas un vice. C'est pas un manque de volonté. C'est un dysfonctionnement ou une maladie qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est-à-dire qu'ils peuvent mener jusqu'à la mort ou à la prison. Enfin, il s'agit de ça, hein. Ce qu'on dit aux débiteurs anonymes, pour se rétablir, ça va être dans une dépense consciente. On n'apprend pas à budgétiser, c'est ça qui m'a plu, on m'apprend à dépenser. Dépenser juste. Si je dépense juste, je ne vais pas m'endetter. C'est noter tous les jours ses dépenses, nourriture, cinéma, 10 euros, 2 euros. Et après, c'est faire ses comptes toutes les semaines, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Par semaine, mais ça rapporte gros. C'est la discipline. Donc ça fait 19 ans que je suis débuteur anonyme. Je suis dans ma 20e année, ouais.
Et votre petit carnet, vous le tenez toujours ?
Je le tiens tous les jours. C'est quelque chose de sacré, c'est une espèce de doudou. C'est une forme d'autodestruction pour moi. Ne pas gagner d'argent, refuser l'argent... Je faisais des choses aberrantes, quoi. Après, je répétais un spectacle, je gagnais pas d'argent à côté, mais je me disais, de toute façon, ce spectacle va m'apporter beaucoup d'argent dans 2 ans. Mais c'est complètement dysfonctionnel comme raisonnement. Donc je m'endettais, je creusais mon découvert à la banque. Pour moi, le découvert, c'était de l'argent à moi. Voilà, c'était normal. Sans tenir compte que je payais des adjos. Mais ça, c'était secondaire, je m'en foutais. Je payais pas mon loyer, ou des choses comme ça. Ou je tapais de l'argent, oui, à droite, à gauche. C'est pas le remède qui est difficile, c'est la maladie. Le plus dur, c'est de souffrir. Et puis de voir sa vie défiler devant soi, et puis passer à côté de sa vie. Mais bon, j'avais gagné ma vie correctement par moment, je m'ai donné des leçons de tennis, j'avais fait un peu de télé, de cinéma, du théâtre, j'avais été intermittent. Mais quand je gagnais de l'argent, je dépensais n'importe comment. Mettre de côté, je sais pas ce que ça voulait dire. Acheter un appartement, je sais pas ce que ça voulait dire. Tout a changé. Hein. Ma vie a complètement changé. Je gagne très bien ma vie. Je fais ce que j'aime, une forme de reconnaissance dans ce que je fais. Je suis propriétaire, ce qui est assez inespéré. J'ai quand même contracté un emprunt à 100% à 48 ans, ce qui est quand même assez hallucinant par les temps qui courent. Je me suis refait faire complètement les dents. Et ça, ça participe à un mieux-être. J'ai plus de dents. Pratiquement, ça se voyait pas, mais j'avais des bridges provisoires, je pouvais pas manger de viande, ça se voyait pas, mais c'est une sorte de handicap. Je me mettais pas en valeur, je me négligeais, je m'habillais mal, je me soignais pas, je n'habillais pas de vêtements, là je suis pas très bien habillé, mais je fais plus attention, quoi. J'ai les moyens, quoi. Le danger, c'est de croire qu'on est guéri, quoi, que c'est bon, on n'a plus besoin de rien. Et puis après, les vieux schémas restent présents. Mais en me contraignant et en sachant où va mon argent, au bout du compte, je vais vraiment me faire plaisir. Mais c'est pas parce que je fais attention à l'argent que je cours après l'argent. Je pourrais gagner plus en faisant d'autres choses ou en travaillant plus. C'est pas le but. Le but, c'est vivre bien sans se détruire avec l'argent.
Bobola, come. Get down. Get down. Thank you. Stay down. Sweetheart, you have to wait. Je venais de famille de disparates à tout point de vue, puisque ma mère était française, venait de Touraine, mon père était juif russe, né à Kiev. Mon père était apatride, il n'avait pas de passeport jusqu'à la quarantaine. Ma mère ne travaillait pas, on était 5 enfants. On était extrêmement pauvres quand j'étais enfant. Ma mère avait des idées de grandeur. Ça aussi, ça colore comment j'ai vécu avec l'argent, parce que ma mère nous mettait dans des écoles privées qu'on n'avait pas les moyens de payer. Alors, ils ne nous viraient pas tout de suite, mais tôt ou tard, ça finissait. Ou on prenait des cours de danse 3 fois, puis après, on ne pouvait plus. Et c'était difficile, quoi. C'est difficile. On vivait de manière charmante, mais au niveau matériel, vraiment très ténue. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler quand je suis allée aux États-Unis à 20 ans. J'ai trouvé un boulot d'acheteuse bilingue en prétendant que je savais faire tout ce qu'on me demandait si je savais le faire. Et puis à un moment, j'ai eu une période d'anorexie physique et en même temps une anorexie au niveau des dépenses. C'est-à-dire que je mettais de l'argent de côté. Donc vraiment être en équilibre avec les histoires de gagner, dépenser et tout ça, ça n'a pas été évident. Quand je suis revenue en France, il me restait de l'argent et je vivais joyeusement sur ma réserve. Et en fait, ce sont ces premières années, jusqu'à ce que j'arrive en DA, où je suis arrivée au bout de mes réserves et où j'ai commencé le cycle que beaucoup de gens décrivent, d'emprunter pour vivre. Et je travaillais comme traductrice, je travaillais toujours comme traductrice, mais j'avais des rentrées un peu importantes à la fois, donc je m'endettais. Quand j'avais une rentrée, je couvrais ça. Et puis là, c'est devenu très, très angoissant. J'avais toujours l'impression que j'avais de l'eau jusqu'aux narines. Là, j'avais vraiment la sensation que je me noyais. Et c'était le manque d'argent, c'était devoir courir après chaque petit truc qui m'était dû. Et vraiment beaucoup d'angoisse autour de ça. Et dans cet autre programme en 12 étapes, dont je fais partie depuis longtemps, quelqu'un m'a dit « ça serait peut-être bien que tu ailles voir ce qui se passe » là-bas. Voilà. Donc, quand j'y suis arrivée dans un état de grande détresse, de désespoir, je me suis vraiment accrochée à ce qui m'était proposé. Et puis, de voir comment les gens sont arrivés, quand ils parlent de comment ils sont arrivés, comment ça a changé, comment c'est maintenant, ça rassure sur le fait que même si on se sent désespéré, comme c'était mon cas, il y a de l'espoir pour que ça change. Débiteur anonyme, ce n'est pas un programme pour les acheteurs compulsifs. C'est pour les gens qui s'endettent. Encourir des dettes non garanties. Et ça, c'est ce que je faisais. Je suis arrivée en DA, je devais 2 500 sur ma carte FNAC. Voilà. Bon, à cette époque-là, je n'arrivais pas à gagner assez pour couvrir mes dépenses. Et j'empruntais chez Sofinco ou sur ma carte FNAC ou à la banque. De quoi couvrir, puis après je comblais le vide comme je pouvais. Et donc j'étais dans cette espèce de roulement, mais je n'ai jamais été une acheteuse compulsive. Quand je suis arrivée en débiteur anonyme, j'ai commencé par noter mes dépenses, montrer à des gens où j'en étais, le faire le mieux possible. On s'est rendu compte un jour que je ne gagnais pas de quoi vivre, je ne gagnais pas de quoi manger, je ne gagnais pas de quoi, en plus j'avais un loyer excessivement élevé par rapport à mes revenus. On m'a dit, c'est pas étonnant que tu sois pas bien. Ça ne peut pas couvrir tes dépenses. Ah bon ? J'avais pas une vision réaliste de la chose. Je me souviens d'avoir emprunté de l'argent à ma sœur pour acheter des chaussures magnifiques. Je lui ai remboursé, mais c'était pas exactement une urgence. Ce que j'ai acquis en débiteurs anonymes, c'est d'abord ça, une image de plus en plus claire de cette réalité, de mes gains, de mes rentrées, de mes besoins. Et puis il y a un aspect vision, un aspect de quoi tu as envie. Pour toi, qu'est-ce que ça serait une vie plus satisfaisante ? Pourquoi aimerais-tu avoir plus d'argent ? Une amie m'a dit, dans une réunion comme ça, je lui ai dit, j'ai honte, je suis allée acheter un nettoyant. Et c'est un truc fluorescent, orange, ça coûte 99 centimes, c'est horrible. Je suis sûre que ça empoisonne la terre. Et elle m'a dit, ben voilà, par exemple, tu pourrais songer à gagner mieux pour pouvoir ne plus acheter ça. Voilà. Et vraiment, je suis passée au bio, progressivement. Voilà, maintenant, même si j'ai peu d'argent, j'ai dit, je préfère manger plus de lentilles bio et pas manger de la viande qui est produite n'importe comment. Et ça, ça s'est fait tout seul. Et c'est comme si, au lieu d'être dans une vague descendante qui happe vers le bas, on se met dans un courant plus positif, plus montant, et les choses se réparent. Et il y a une réparation intérieure de mériter, d'avoir droit à ce dont on a besoin. Et ce qu'on fait dans le programme, c'est ça. C'est pas seulement gagner plus d'argent et ne plus faire de dettes. Ça, c'est l'essence, c'est comme ne pas boire. C'est 100%, on ne crée pas de nouvelles dettes. Et puis, le reste, c'est développer notre vie. Ma relation à l'argent, ma relation à la dépense, ma relation à la peur de manquer, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de ce que c'était quand je suis arrivée. Même s'il y a des périodes d'inconfort, même s'il y a des périodes où ça marche moins bien, mais moi je suis dans quelque chose de continu et oui, de positif. Depuis, je n'ai jamais été en négatif à la banque.
7, 7, 7, Paula. Thank you.
C'était Les Débiteurs Anonymes, reportage Stéphanie Thomas, réalisé par Delphine Lemaire avec un coup de main de François Connac et diffusé pour la première fois le 14 septembre 2015. Merci à Vincent, à Nathalie, à Aurélie, Marcel, attaché de production des Pieds sur Terre.